Bonjour à tous, vous écoutez bien France Culture, il est tout juste midi. Il est midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais tout de suite, les titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Une centaine de migrants portés disparus depuis vendredi après deux naufrages en Libye. Plus de 1200 personnes ont déjà trouvé la mort depuis le début de l'année. Précision tout à l'heure avec Véronique Rebérotte. Il y a de nouveaux raids aériens qui ont visé ce matin la ville d'Alep, au moment même où le secrétaire d'État américain John Kerry cherchait à Genève les moyens de sauver la trêve en péril en Syrie. La publication par Greenpeace de documents confidentiels conforte les craintes des opposants au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment sur les questions de santé et d'environnement. On verra cela avec Anne-Laure Chouin. On reviendra sur le 1er mai placé sous le signe de la lutte contre le projet de loi travail, émaillé de violences, notamment à Paris où des incidents ont fait 2 blessés légers. On y reviendra avec Cécile Aspe. L'examen de cette loi travail commence demain à l'Assemblée nationale. Le rapporteur du texte, le socialiste Christophe Sirugue estime qu'il manque près de 40 voix pour obtenir une majorité. Et puis le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2015, les faits anti-musulmans ont triplé en France, les préjugés antisémites ont persisté, dossier suivi par Catherine Dutu. L'invité de la séquence interview, ce sera Valérie Higounet, qui est historienne spécialiste de l'extrême droite. Voilà pour les titres, c'est à vous Caroline, la Grande Table.
La Grande Table qui commence avec une rencontre, une drôle de rencontre, pour peut-être un drôle d'endroit, ça c'est ce que nous allons voir, une rencontre entre un nez et un œil. Bonjour Mathilde Laurent.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice des parfums de la maison Cartier depuis 2006. Vous avez accordé un entretien dans le premier numéro d'une toute nouvelle revue de culture olfactive. Alors je crois même que c'est la première du genre, ou quasiment, une revue intitulée Nez. Bonjour Philippe Costamagna.
Bonjour.
Alors vous, votre métier est peut-être moins connu du grand public. Le nez, on le connaît, et encore, nous allons peut-être découvrir beaucoup de choses en compagnie de Mathilde Laurent. Mais vous, vous êtes œil, et vous signez des histoires d'œil qui parlent de votre métier, de votre formation, de votre passion. C'est un livre qui paraît chez Grasset. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet avec l'un et avec l'autre, je voudrais vous demander si, pour vous, cela a du sens d'organiser une rencontre entre un nez et un œil. Autrement dit, est-ce que, déjà, vous savez l'un et l'autre de quoi est fait le métier de l'autre, et est-ce que ce dont vous savez ou ce que vous ne savez pas, mais est-ce que ce que vous savez vous donne à penser qu'il y a des points communs, des correspondances entre vous deux? Mathilde Laurent.
Alors, je connaissais pas du tout le métier de Philippe, je savais pas qu'il existait des œils. Je connaissais les yeux, mais je connaissais pas les œils.
Bon, c'est bien, vous êtes comme tout le monde.
Voilà. Et donc j'ai découvert ce métier qui m'a vraiment fascinée. J'ai bien compris la différence avec le métier d'historien d'art, qui est beaucoup plus théorique, beaucoup plus raisonné. Et ça m'a beaucoup plu, ce côté instinctif en fait, et aussi un peu viscéral du métier d'œil. Et c'est vrai que c'est le lien en fait, et c'est pour ça que ça me paraît très cohérent de faire une rencontre entre un œil et un nez, parce que on voit bien en fait que tout se passe dans le cerveau et que finalement le point commun, même si l'œil et le nez sont très différents, finalement ils sont tout proches du cerveau, et c'est vraiment, ça montre que le cerveau est vraiment l'endroit où tout se passe. Qu'on soit parfumeur ou qu'on soit œil, finalement le point commun c'est qu'on subit un cerveau complètement atypique.
Ce qui peut paraître étonnant, Philippe Costamagna, quand on parle de l'œil et quand on parle du nez, parce que ce sont des sens avant tout. Alors on sait bien que tout est guidé par le cerveau, mais enfin quand même, on ose penser à certains moments que nous sommes parfois guidés par nos sens. Est-ce que être œil, c'est aussi se laisser guider par son cerveau?
Alors moi je pense qu'on a... C'est tout ce qui se passe de toute façon dans le cerveau est très très compliqué à expliquer. En fait, on ne sait pas ce qui se passe vraiment quand on fait une attribution, c'est-à-dire quand l'œil se met en marche. C'est comme, je ne sais pas si le nez non plus, on peut l'expliquer ce qui est là. C'est pour ça que d'ailleurs c'est formidable d'être confronté l'un à l'autre, en fait, d'être ensemble, parce que ce sont vraiment les deux points. Même si on aurait pu avoir une oreille, mais l'oreille est quand même un peu différente. C'est tandis que nous, on a cette espèce de don que l'on travaille et enfin si on peut, c'est un peu prétentieux de dire qu'on a un don, mais bon,
vous le ressentez,
ce n'est
comme
pas donné
ça
à tout le monde, je pense, d'avoir de l'œil, parce que je connais des gens qui sont d'excellents historiens d'art qui n'ont pas d'œil. L'un n'empêche pas l'autre, vous voyez. Mais je crois que cette confrontation est formidable, et donc moi ça m'amuse beaucoup d'être
là. Écoutez, c'est une bonne chose. Au début de votre livre, Philippe Costamagna, vous écrivez: les nez repèrent des senteurs et invente des parfums, les œils pour l'histoire de l'art, parce qu'on dit bien les œils, je dis bien aux auditeurs sourcilleux qu'on dit bien les œils donc découvrent des tableaux et établissent des paternités d'un coup d'œil. Et puis vous ajoutez, la comparaison s'arrête là, les œils ne sont pas des créateurs.
Oui, tandis que les nez sont des créateurs. Enfin, je pense que quand vous créez un parfum, vous le sentez que vous êtes créateur. Il y a du génie que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de génie. Nous avons de la culture.
Vous avez un don que vous cultivez, ouais. Mais vous pensez que vous n'êtes pas des créateurs. Vous vivez comme une créatrice. On dit créateur de parfum. Mathilde Laurent.
On peut dire créatrice, on peut même dire parfumeuse, ce que je trouve pas très joli, mais au moins nez, ça n'a ni masculin ni féminin. Excusez-moi.
Vous vivez comme une créatrice?
Alors,
au sens artistique, pense que vous l'entendez, Philippe, de cette manière.
Philippe, en fait, c'est compliqué de dire je suis une créatrice, j'ai un don. Je pense que il y a finalement pour créer, pour exercer ces métiers, je pense qu'il faut peut-être un point commun aussi, c'est peut-être vraiment l'humilité. En fait, d'abord, se mettre toujours au pied du mur, toujours apprendre, toujours essayer, et ne pas s'établir doué d'un don et créateur génial. Donc du coup, je ne dis jamais que j'ai un don, que je suis une créatrice.
Vous insistez plutôt sur le travail.
Je crée des parfums. Je crée des parfums, ça oui.
Vous insistez plutôt sur le travail, Philippe Costamagna, vous aussi, cela dit.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord en plus sur le fait de l'humilité. Parce que le jour où on commence à être sûr, à être un peu prétentieux, un peu sûr de soi, on se plante, on rate, on a fait une mauvaise attribution, comme je pense qu'on est très sûr de soi, on doit faire un mauvais parfum. Je pense que nous sont des métiers où il faut consulter, parler aux autres. Quand on a une vision, on se dit, bon, formidable, j'ai découvert ça, mais est-ce que j'ai raison? Parce que, et je pense que ça doit être à peu près pareil pour le nez, on doit être très très content de soi, mais on se dit, mon Dieu, peut-être ce n'est pas si bien que ça, si vous voulez. Nous, quand j'ai découvert ce tableau de Bronzino à Nice, qui a été, heureusement que j'étais avec...
C'est par là que votre livre commence, hein. C'est une grande découverte, elles sont rares dans votre métier, Philippe Costamagna, écrivez-vous, mais vous avez, alors vous dites paf, une révélation, c'est-à-dire que tout d'un coup, paf, l'œil dit, ah bah ça, c'est un Bronzino, qui date de l'époque dont vous êtes l'un des plus grands spécialistes, hein, le 16e siècle, et c'est un Christ en croix, et je décrète que c'est un Christ en croix. C'est ça, en fait, votre travail.
Oui, non, surtout je décrète que ce Christ en croix est de Bronzino, que cette œuvre était perdue, et qu'en fait c'est une œuvre fondamentale qui permet de comprendre mieux l'artiste et de mieux comprendre l'époque et ce qu'il s'est passé, les bouleversements politiques et religieux. Et en fait, on ne pouvait pas savoir, si je n'avais pas eu cette culture, si nous avions, parce que nous étions deux, on a eu la même révélation au même moment, si nous n'avions pas eu cette révélation, cette culture, on n'aurait pas su, on serait passé à côté comme tous les autres.
Oui, mais vous parlez de révélation, vous expliquez quand même bien derrière que vous devez faire un important travail de vérification. Il y a toute une expertise scientifique après qui commence, Philippe Costamagna. C'est-à-dire, dans la découverte toute récente du tableau présumé du Caravage, découvert dans un grenier près de Toulouse, et estimé à quelques 120 millions d'euros, on voit bien qu'il y a d'abord l'attribution, puis le long travail minutieux de vérification de l'historien d'art.
Oui, absolument. Enfin, dans le cas du présumé Caravage, ils ont eu cette idée de qu'il pouvait s'agir d'un tableau de Caravage. Après, il fallait se raccrocher à l'histoire et essayer de prouver, d'expliquer le passage et retrouver dans les documents. Pour ce qui est du tableau de Bronzino, le tableau était extrêmement connu, on connaissait tout, sauf l'image. Donc, c'est un peu différent. Le travail était fait en amont, en fait. On avait déjà travaillé sur ce tableau, on savait tout sur le tableau. On ne savait pas à un moment, il disparaît.
En fait, vous ne saviez pas où il était. Vous êtes tombé dessus, et donc c'était presque une évidence que c'était ce tableau-là.
Ah, ça ne pouvait être que celui-là. C'est une fois que, si vous voulez, c'était assez curieux, parce que c'est là où c'est au-delà de l'histoire de l'art, et c'est vraiment l'œil qui fonctionne. C'est-à-dire, il y avait un rayon de soleil qui touchait le doigt de pied. Et ce qui n'est pas très bien, faut dire, qu'un rayon de soleil touche le doigt de pied d'un musée. Enfin bon, dans un musée, d'un tableau. Et donc, on a vu, on était ensemble avec cet ami, spécialiste de la même chose, et on a vu ce doigt de pied, on a vu la même chose. C'est-à-dire, on a vu un doigt de pied peint par Bronzino. Donc, c'est incroyable, on a levé le regard, et on a vu ce tableau décrit par Vasari, qui était le artiste, il a écrit La vie des peintres au XVIe siècle, donc on savait tout sur ces gens pour qui ça a été fait, les Panciatichi, et on a compris quelque chose, on a compris que c'était en fait une œuvre de la réforme catholique de l'Église, enfin lourde en sens, mais on ne pouvait pas imaginer que c'était cette image. Et d'ailleurs, il était donné un peintre du XVIIe siècle.
Oui, alors c'est là que quand même le terme de don n'est pas forcément le plus approprié, Philippe Costamagna, parce que on voit bien, on comprend bien, et en vous lisant encore plus, à quel point il s'agit d'une formidable culture, d'une très solide culture artistique que vous avez. D'ailleurs, vous, en l'occurrence, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, puisque votre arrière-grand-père était chirurgien de Renoir. Bon, déjà, ça ne s'invente pas, mais ensuite, vos grands-parents vous ont emmené tout petit au musée. C'est une première chose, mais en l'occurrence, vous avez aimé ça. Vous avez tout de suite aimé la peinture et vous avez développé ensuite une formidable assiduité dans les musées que vous avez ensuite travaillé au sein de l'école du Louvre avec des professeurs à qui vous rendez hommage comme Michel Laclotte ou comme Sylvie Béguin. Et vous avez fait une thèse, mais c'est une culture acquise. Travailler, donc ça n'est pas seulement un don. Voilà, c'est comment on devient œil? Pas par le travail et la culture acquise.
Il y a une passion aussi. Hein. C'est une, je pense que c'est une passion que nous partageons, hein, parce que c'est, on vit pour ça, on vit avec ça, et c'est formidable. On a cette chance. Hein, je reconnais que c'est une chance. Après, si vous voulez, moi, j'étais avec mes frères, sœurs, cousins, cousines. Ils avaient le même amour pour l'art, si vous voulez. Mais moi, j'ai développé. Je pensais que je pouvais faire que ça. C'est une chance qui m'était donnée.
Même question, Mathilde Laurent, c'est un travail. Vous avez fait des études à l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. On va peut-être changer le nom de cette école, qui est un peu long.
Tout à fait.
Mais donc c'est pareil, la question comment devient-on né, vous y répondez par des études, une passion, comment?
Oui, c'est des études, mais j'ai souvent dit, en fait, j'ai expliqué souvent que finalement, on choisit pas tellement. On est mené justement par ce cerveau. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été mené par ce cerveau qui voulait sentir. Ce cerveau qui voulait...
aussi, toute petite déjà, vous sentiez tout ce que vous aviez...
Toute petite, je sentais...
Vous aviez sous le nez,
tout ce que je pouvais sentir, sans aucun dogme. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on m'a jamais dit « ça, ça sent bon, ça, ça sent mauvais ». Au contraire, il y avait plutôt cette idée d'appréhender le monde par les odeurs, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est très important, en fait. Le présupposé, c'est plus de n'avoir pas de dogme que d'être amené vers le parfum, par exemple. On m'a jamais amené vers le parfum en me disant « sans des parfums, ça sent bon » ou des choses comme ça. On m'a plutôt tourné vers la perception du monde sous toutes ses formes, y compris olfactive, sans aucune autre règle que d'expérimenter, de prendre du plaisir, de découvrir, de savoir nommer, comme de prendre des repères dans l'art, comme dans un jardin, dans une maison, sur des personnes, le pain, la confiture, mais aussi le grenier, le moisi, le fromage, voilà. Donc c'est vraiment plus, j'ai plus l'impression d'avoir eu cette éducation. Comme dit Philippe, il avait des frères, des cousins, des... Voilà, moi j'avais
des grands-parents,
aussi...
vous aussi.
Voilà, tout à fait, des cousins, j'ai une sœur. Voilà, donc... mais c'est vrai que... C'est pour ça que je dis que j'ai la sensation d'avoir subi mon cerveau, parce que chacun a fait ce qu'il voulait de cette éducation. Ma sœur est devenue paysagiste, donc elle a aussi goûté le plaisir de la nature, de la découverte du monde. Mais moi, je l'ai goûté olfactivement parce que mon cerveau l'avait décidé. Donc il y a ce côté inné, en fait, que je pense qui est assez important.
Philippe Costamagna.
Mais alors, si je comprends bien, j'imagine qu'un œil, un nez a aussi de l'œil. Parce que vous, c'est ça qui est formidable à vous écouter, vous sentez, vous regardez.
Tout à
Donc
fait.
Vous auriez pu faire aussi un excellent œil.
Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir justement un cerveau qui est très sensoriel, en fait. Et je pense que vous allez me dire si vous aussi. Mais j'ai l'impression que tous mes sens servent à la perception. Voilà, donc je ne suis pas un parfumeur qui voit des couleurs quand je sens ou qui entend des sons. Mais c'est vrai que quand on sent une odeur, on la décrit en utilisant tout le vocabulaire des autres sens. Et c'est vrai que je pense pas que j'aurais fait un œil, parce que je pense que j'ai peut-être pas ce don là, mais en tout cas j'ai un cerveau très multisensoriel.
Alors, est-ce que
vous aussi?
je sans doute, peut-être, parce qu'en fait moi je suis très sensible aux odeurs. Je trouve les gens mettent trop de parfum, excusez-moi.
Mais on est parfaitement d'accord, on peut en parler. Donc je suis à 100% d'accord, merci.
C'est souvent une agression. Enfin,
tout à fait.
D'ailleurs, vous n'en mettez pas vous-même pour rester
pas du tout,
le plus
jamais,
neutre possible.
Oui, et donc c'est vrai que donc on sent quand même. Comme vous, visiblement, vous regardez, mais vous regardez pour voir dans les tableaux ce qui vous rapproche de votre métier aussi.
Tout à fait, oui.
Mathilde Laurent.
Tout à fait. Moi, c'est vrai que je fais feu de tout bois, j'ai envie de dire. Voilà, parce que tout m'intéresse pour le transformer en création. Donc, c'est vrai que je m'intéresse à tout type de sujet. C'est pour ça que j'ai adoré lire votre livre, parce que tout impacte et tout produit quelque chose d'olfactif ou d'intellectuel olfactivement.
Ça veut dire que vos parfums, Mathilde Laurent, ne naissent pas nécessairement d'une odeur. Au départ, ça n'est pas une odeur qui vous inspire.
Non, ça, tout à fait. Vraiment, on peut prendre son inspiration partout. Et justement, j'aime bien prendre mon inspiration dans l'art et dans l'histoire de l'art, dans les grands chocs esthétiques, les bouleversements de l'histoire de l'art, parce que je considère que la parfumerie est un art. Et donc, à ce titre, on doit la bouleverser, on doit la faire évoluer exactement comme tous les autres arts qui ont bénéficié de chocs, de découvertes, de ruptures. Et donc, je m'inspire beaucoup justement de l'histoire de l'art pour tordre, casser aussi le parfum et son histoire de l'art.
Je me souviens d'avoir reçu ici à cette même table le nez de Hermès, Jean-Claude Héléna,
mon ami,
qui disait que la beauté d'un parfum pour lui ne venait pas de l'addition des matériaux, mais plutôt de la manière de les utiliser, de les juxtaposer, de les faire s'exprimer. Alors
exactement.
Non seulement le parfum est une œuvre de l'esprit, Mathilde Laurent, et là vous êtes d'accord, mais c'est aussi une juxtaposition.
Mais en fait, c'est comme dans toute œuvre, en fait, la juxtaposition, la foultitude de messages, d'ingrédients n'est pas forcément toujours source de beauté. Et parfois, l'épure, l'exactitude du choix des ingrédients est beaucoup plus belle et beaucoup plus difficile. Je dis souvent qu'en parfumerie, il faut pas faire des minestrones. Voilà, il faut pas ajouter et prendre tout ce qui est possible. Tout le monde, même à un niveau zéro de formation olfactive, peut faire un beau minestrone que ses amis apprécieront. Enfin, c'est très facile de faire une composition pleine de beaux ingrédients qui sent bon. Mais faire un parfum qui apporte quelque chose à l'univers du parfum et à l'histoire de l'art du parfum, ça, c'est une autre histoire.
Dans la revue Née, donc la revue olfactive dont le premier numéro paraît et à laquelle vous avez accordé un entretien, Mathilde Laurent, il rappelle un certain nombre de vos créations, de vos parfums, dont le parfum icône de la maison Cartier, qui est Panthère,
oui.
La Panthère. Mais il rappelle également les créations précédentes. Avant d'être chez Cartier, vous appartenez à une autre maison, qui était la maison Guerlain, pour laquelle vous avez réalisé par exemple Pamplune. Puis chez Cartier, vous avez réalisé La 13e heure, Baiser volé, Déclaration d'un soir. On entend quand même souvent l'idée de séduction dans vos parfums. Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse d'un de ceux-là, celui que vous préférez peut-être, s'il y en a un?
Alors préféré, je suis incapable de préférer un de mes parfums, parce qu'ils correspondent tous à vraiment une histoire, autant une histoire que j'ai voulu raconter, et puis aussi à un moment de ma vie et un challenge que je m'étais fixé. Dans le cas de Baiser volé, par exemple, c'était le challenge de faire une nouvelle fleur, de choisir le lys, qui n'est pas une fleur très très présente en parfumerie, et surtout en fait, le lys ne donne pas d'essence, pas d'absolu. Et donc, mon idée, c'était de faire un très beau lys sans lys. Pour montrer, aussi parce que j'ai toujours à cœur de montrer que le métier de créateur de parfum, c'est pas juste de faire des choses qui sentent bon, c'est aussi d'avoir un propos par rapport à son métier.
Ça veut dire qu'on peut aussi mettre de la mauvaise odeur dans un parfum ?
Ah, tout à fait, il faut absolument mettre des mauvaises odeurs dans un... Enfin, des mauvaises odeurs, moi, ça, pour moi, ça ne veut rien dire, mauvaise odeur. Je pense qu'à Philippe, si on lui demande s'il y a des mauvais éléments à mettre dans un tableau, je pense que voilà, au contraire, de cette incongruité ou de cette surprise peut naître la beauté.
Oui, enfin, il y a vraiment des mauvaises odeurs, Mathilde Laurent.
Ben oui, mais c'est quoi une mauvaise odeur? Parce que en fait, la mauvaise odeur,
c'est... On est à l'heure du déjeuner, mais bon...
Il faut savoir que...
Chacun a sa mauvaise odeur.
Il faut utiliser toutes les odeurs, parce que la mauvaise odeur, votre mauvaise odeur n'est pas la mienne, et ma mauvaise odeur n'est pas celle de Philippe.
Bon, allez, j'y vais. Ah, le vomi, c'est une mauvaise odeur.
Ben, pas du tout, parce que le vomi, il faut savoir que le vomi, c'est des notes butyriques, des acides, des butyrates, et que les notes butyriques sont celles qui constituent les fruits. Donc, il y a vraiment, sans odeur de vomi, vous ne pouvez pas reconstituer une prune, une groseille, une cerise. Voilà. Si vous n'avez pas de butyrate, si vous n'avez pas cette odeur de vomi, vous ne ferez jamais de fruits. De la même manière que si vous n'avez pas d'odeur fécale, vous ne ferez jamais un muguet. Vous ne ferez jamais un beau jasmin. Voilà. Donc il faut, c'est vraiment ça que nous enseigne la parfumerie, et c'est pour ça que le fait de n'avoir eu aucun dogme dans mon éducation olfactive, c'est ça qui m'a aidée. C'est que justement, pour être parfumeur, il faut, comme un peintre, considérer toutes les couleurs. Et quand Monet peint une barrière dans la neige, eh ben, il utilise le mauve, alors que personne n'irait chercher du mauve pour montrer l'ombre de cette barrière dans la neige avec cette lumière. Et la parfumerie, c'est exactement pareil. Il faut considérer les ingrédients pour ce qu'ils sont et pas pour la culture qu'on en a.
Mais il y a quand même des artistes malhabiles aussi.
Ah oui, bien sûr.
C'est la différence.
Sombre, que m'importe. Je n'ouvrirai pas la fenêtre et laisserai fermer ma porte. Je veux garder pour en mourir ce que vous avez oublié sur les décombres de nos désirs, votre parfum sur l'oreiller. Laissez-moi deviner ces subtiles odeurs et promener mon nez, parfait inquisiteur. Il y a des fleurs en vous que je ne connais pas et que gardent jaloux les replis de mes draps. Oh, la si fragile prison, il suffirait d'un peu de vent pour que les chères émanations quittent ma vie et mon divan.
On écoutait Juliette hein, sur l'oreiller, l'histoire d'un parfum. On parlait d'histoire avec Mathilde Laurent, Philippe Costamagna. Vos histoires d'œil, votre livre édité chez Grasset, c'est une série d'histoires au fond. C'est votre histoire, c'est l'histoire des tableaux, c'est l'histoire de la façon dont on attribue la paternité d'un tableau, puis ensuite dont on fait l'expertise scientifique, visuelle, historique de cette attribution. Vous racontez des histoires, c'est aussi votre métier, non ?
Non, mais surtout je raconte des histoires, en fait j'essaye de donner des réponses à des questions que les gens se posent sur ce métier qu'ils connaissent peu. Et souvent quand on parle d'un tableau, on dit qu'il n'est pas du maître, alors les gens vous répondent tout de suite c'est un faux. En fait la notion de faux existe, c'est un vrai faux, c'est un tableau qui est faux, qui veut tromper. Donc j'explique qu'est-ce que c'est qu'un atelier, qu'il y a des bons peintres, des mauvais peintres, contrairement aux odeurs. Là on le sait. Parce qu'il y a des gens, il y a des peintres qui sont extrêmement malhabiles. Après, je raconte tout ce monde, en fait, qui pour nous est extrêmement notre quotidien, mais qui est compliqué, le rapport avec les marchands, le rapport avec les maisons de vente, le rôle des maisons de vente, le problème des restaurations, et je raconte comme des petites histoires, en fait, à travers des exemples pour que le lecteur puisse suivre.
S'y retrouver. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous racontez que c'est très rare pour un œil de faire une grande découverte et que dans l'histoire des œils parmi les plus connus, les plus forts comme Bernard Berenson, Roberto Longhi ou Federico Zeri, auquel aussi vous rendez hommage, Philippe Costamagna, vous dites que même eux ont fait peu de grandes découvertes dans leur vie. Est-ce qu'il vous est arrivé à côté de quelques grande découverte comme ce Christ en croix de Bronzino, de vous tromper?
Oui, j'ai bien sûr que je me suis trompé. Et d'ailleurs, j'ai un chapitre que j'intitule « J'avoue m'être trompé » que j'emprunte à Federico Zeri qui a fait un livre « J'avoue m'être trompé ». Bien sûr, on se trompe, parce que c'est l'attributionnisme, un mot que je déteste, n'est pas une science exacte.
La science de l'attribution, c'est une science déjà, c'est plus qu'un
science,
art.
Oui, et ce n'est pas une science exacte, parce que quand on est persuadé d'une chose, on s'en engage d'abord que soi, au départ. Et on peut se faire même des ennemis, parce que quelqu'un vous dit « c'est un tableau », je vous dis de Raphaël, et vous dites « non, c'est pas Raphaël, mais c'est un tableau d'un de ses maîtres », et vous allez expliquer qui. Évidemment, les gens ne sont pas contents, parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont très importants. Et c'est ça le problème, le danger de ce métier. Et donc, comme nous sommes un peu humbles, des fois nous allons, disons, vers des tendances à dire non, ce n'est pas d'un tel, c'est pas d'un tel, et là on peut se tromper parfois.
Et puis il y a des évolutions qui sont très, vous parlez de danger, mais il y a des évolutions qui sont presque difficiles dans vos deux métiers d'ailleurs, dans la parfumerie comme dans l'histoire de l'art. Vous avez tous les deux une réflexion sur l'éducation, l'importance de l'éducation face aux différentes évolutions de vos milieux. Par exemple, on se demande avec vous, Philippe Costamagna, si votre métier n'est pas voué à disparaître du fait des progrès des technologies de reconnaissance d'image, de la révolution numérique. Est-ce qu'on va encore avoir besoin des œils, par exemple ?
Alors, je pense qu'enfin, l'œil est une chose que la technologie ne peut pas apporter. C'est-à-dire, je pense la même chose pour le parfum, parce qu'on pourra dire... comparer des images par un système informatique quelconque, on n'arrivera pas à dire tout de suite, nous, quand on voit un tableau, on dit c'est d'un tel. Le système informatique pourra donner une réponse, mais on pourra certainement la descendre tout de suite. C'est la même chose pour les techniques dans l'analyse des œuvres.
Donc ce n'est pas un métier qui est voué à disparaître, Mathilde Laurent, le vôtre non plus, mais peut-être qu'une tendance, un savoir-faire artisanal a tendance à devoir résister face à une domination du marketing, on peut le dire comme ça.
Une domination du marketing et une domination aussi de la tendance, en fait. Voilà, c'est l'industrie du parfum est une industrie qui se laisse écraser sous la tendance et qui suit la tendance. Les maisons qui n'ont pas de parfumeurs, que j'appelle d'ailleurs des marques, finalement ont tendance à créer des parfums et à aller très vite vers une tendance. Et donc finalement à inonder, le marché est inondé, il y a des centaines de lancements par an et tous ces lancements qui sont un peu sans vie, sans âme, sont créés selon la tendance. Et finalement, On constate aujourd'hui, donc c'est plutôt bon signe, que les gens ont envie d'autre chose. Finalement, plus on écrase tout le monde sous une tendance qui est fruitée ou qui est marine quand elle est marine, la tendance devient tellement énorme et incontournable que finalement on crée une envie pour autre chose. Donc c'est plutôt très bon signe. Et moi, c'est dans cette envie que je m'inscris, c'est l'envie de parfum plus créatif, plus poétique. Voilà, et j'espère satisfaire justement les gens qui ont envie d'autre chose que de parfums fruités artificiellement.
Il restera à aller sentir vos créations, Mathilde Laurent. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre métier, à l'un comme à l'autre d'ailleurs. Je rappelle qu'on peut lire un entretien avec vous, Mathilde Laurent, dans cette revue olfactive qui vient de paraître, qui est la revue Née, et qu'on peut lire vos histoires d'œil, Philippe Costamagna, paru aux éditions Grasset. Merci à tous les deux d'être venus au micro de la Grande Table. Dans un instant, c'est le journal.